Bonsoir. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, son sigle, a déclaré mercredi 13 août 2024 l'épidémie des variole du singe ou monkeypox comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. Cette annonce a été faite par le directeur général de l'OMS qui a affirmé que la maladie affecte plusieurs pays africains, dont la RDC. L'OMS craint qu'une souche plus mortelle et transmissible du virus ait atteint des régions africaines jusque-là épargnées. Et en ce qui concerne la RDC, le ministre de la Santé affirme qu'à ce jour, presque toutes les provinces de la RDC sont affectées par cette maladie. Dans sa communication, Dr. Roger Kemba parle de plus de 15 000 cas potentiels et 548 décès depuis le début de cette année. Quelle action faites-vous de la prise en charge de cette épidémie en RDC? Que faire pour stopper la propagation de cette maladie en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 15 août 2024. Participe au débat Dr. Chongo Lushima, directeur du programme national de lutte contre le monkeypox et les fièvres hémorragiques virales. Dr. Chongo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Avec nous dans ce studio, Dr. Félix Kiabangé-Numbi, ministre honoraire de la Santé publique. Dr. Kiabangé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Dr. D. Joseph Kakisingi, docteur pays, directeur plutôt, pays de l'organisation SAD et coordinateur national de CONAFOD, une plateforme des organisations de la société civile dans le siège à Bukavu, au Sud Kivu. Dr. D. Joseph Kakisingi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sur la 103.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net. Le ministre de la Santé appelle toute la population à s'impliquer pour stopper la propagation de la maladie. La clé pour vaincre l'épidémie des monkeypox ou la variole des singes en RDC réside dans l'implication de tous, déclare Roger Kemba dans une déclaration faite ce jeudi. Il annonce par ailleurs des mesures mises en place par le gouvernement, dont la sensibilisation de la population pour prévenir et limiter la contamination. On écoute le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Dr. Roger Kemba.
Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place une riposte structurée autour de trois axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Nous savons que la clé pour vaincre cette épidémie réside dans l'implication de toutes et de tous. Le deuxième axe de notre riposte est autour de la prévention sanitaire. Nous avons élaboré et validé un plan national stratégique de vaccination contre le monkeypox en République démocratique du Congo. Actuellement, nous travaillons sur l'amélioration et le renforcement des protocoles et des dispositifs de surveillance aux points de contrôle et aux frontières.
C'était la Dr. Roger Kemba, ministre de la Santé. Dr. Chongo Lushima, vous êtes directeur du programme national des luttes contre le monkeypox et les fièvres hémorragiques virales. Je l'ai dit dans mon introduction, l'OMS a déclaré mercredi 13 août 2024 l'épidémie de variole du singe comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. On sait que cette épidémie sévit en RDC depuis quelques années déjà. En 2022, par exemple, à Mbandaka, on avait signalé l'augmentation des cas de monkeypox dans cette province. Mais apparemment, rien n'a été fait. Pourquoi avoir attendu que l'OMS déclare cette épidémie de santé publique, une urgence plutôt de santé publique de portée internationale, pour qu'on voit comment le gouvernement est mobilisé, on voit cette mobilisation du gouvernement pour maîtriser ou la prise en charge de cette maladie.
Ok, madame, pour la parole, la situation depuis le début, depuis l'apparition du tout premier cas de la maladie dans notre pays en 1970, à l'équateur à Bassakoussou, le tout premier cas humain vraiment dans le monde, c'est chez nous ici. Et jusqu'en 1986, il y avait une bonne surveillance avec l'appui de l'OMS Genève pendant 16 ans durant. Et cette surveillance se faisait chez nous ici en République démocratique du Congo et dans quelques pays de l'Afrique centrale et occidentale, Cameroun, Nigeria, la République du Congo à côté, la République centrafricaine. Donc il y avait cette surveillance, mais sur les 16 années de surveillance au début, c'est ce que j'appelle la première période chez nous ici, il y a eu plus ou moins 414 cas, dont 380 cas chez nous, en République démocratique du Congo. Nous avions, depuis le début, 95% des cas. Et puis après, l'épidémie n'a plus vraiment fait, ça a presque disparu. On croyait que ça ne posait plus aucun problème. Mais subitement, en 1996, dans la province du Sankuru à Katakokombe, a surgi une épidémie. On pensait même, quand j'ai vu le premier, nous avons vu le premier cas, on pensait que c'était la variole qui revenait. En faisant les prélèvements, les analyses, nous ont dit que c'était un cas de monkeypox. Ça, c'est le début de la deuxième période que nous connaissons. Et depuis lors, nous avons commencé à notifier les cas et à suivre les cas. Et chaque année, le nombre de cas ne faisait qu'augmenter. Jusque, vous voyez, l'année dernière, en 2023, on a eu plus de 14 000 cas. Voyez, regardez cette année.
Et 654 décès, mais qu'est-ce que le gouvernement avait fait? Quelles mesures prises le gouvernement avait mises en place justement pour limiter la propagation de cette épidémie?
Oui. Compte tenu de moyens de riposte à la connaissance, jusqu'alors, on a mis par exemple de renforcer la surveillance, c'est-à-dire chaque cas doit être investigué. Parce qu'à ce moment-là, on interrompt la chaîne de transmission. Et à ce moment-là, c'est l'occasion pour renforcer les formations, les capacités des équipes de terrain, des zones de santé, des infirmiers titulaires de santé. On les renforce, on renforce leurs capacités pour bien faire les investigations, faire de suivi, faire la sensibilisation dans la communauté, chez les cas et les familles des cas. C'est comme ça qu'on interrompt la transmission par ces méthodes-là. Et vous saviez à ce moment-là que nous n'avions pas encore le vaccin. Le vaccin contre le monkeypox, c'était au niveau de laboratoire, on faisait des recherches. Donc on n'avait que ce moyen-là, le moyen d'investigation pour interrompre la chaîne de compte tenu aussi qu'on ne connaissait pas, on ne connaît d'ailleurs jusqu'à présent, le réservoir est encore mal défini, on ne connaît pas encore. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas encore bien connues et il fallait faire ces méthodes-là. Mais au fur et à mesure que les années avançaient, on observe le nombre de cas de plus en plus élevé. Et jusque maintenant, il y a une ampleur telle que vraiment, ça dépasse tout entendement dans le monde. C'est la situation où nous sommes maintenant. Donc, on faisait avec des moyens
traditionnels. Ça veut dire que la sensibilisation n'a pas été faite convenablement, la prévention.
Dans le, À l'époque, nous avions élaboré des documents de sensibilisation, des affiches, des dépliants. Donc, on faisait la sensibilisation dans les zones où il y avait la maladie. Mais par exemple, au Sankuru, dans la Chuapa, à l'Équateur, on faisait la sensibilisation, mais dans les endroits où les cas étaient notifiés. C'est comme ça qu'on faisait maintenant. Mais l'ampleur, ça ne fait qu'augmenter jusque maintenant.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette aggravation de la situation, docteur Songo Lushima?
Nous pensons, nos hypothèses sont les suivantes. Vous savez que le vaccin contre la variole, on appelle VAV, qu'on vaccinait dans les temps pour éradiquer, c'est ce vaccin-là qui nous a permis d'éradiquer la variole dans le monde. Et ce vaccin agit dans les quatre principaux espèces de virus que sont des orthopox virus, que sont le virus de la variole, le virus de cowpox, le virus de la vaccine et le virus de monkeypox. Le vaccin, on le fabriquait à partir du vaccin, du virus de la vaccine, d'où le nom de vaccin d'ailleurs. Et nous pensons que quand on a arrêté la vaccination, quand on a éradiqué en 1980, on a arrêté ce vaccin, on ne vaccinait plus. C'est ainsi que maintenant nous sommes à 2024, depuis l'arrêt, ça fait plus ou moins 45 ans déjà. Et vous voyez maintenant que la population est jeune, hein, qui est frappée, la plupart, plus de 96 ou 97% de nos cas sont dans les moins de 45 ans, hein, dont plus de 70 sont dans les moins de 15 ans. Donc cette population n'a pas eu une immunité communautaire, comme on dit. Donc on a perdu cette immunité-là. Ça peut expliquer, n'est-ce pas, l'ampleur même de l'épidémie actuellement. Un autre facteur, ça peut être aussi le facteur de pauvreté, hein. Et voyez, si vous allez dans le village, vous trouvez dans une case, dans une maison, 20 personnes, 30 personnes, hein, plus de 10 personnes. Et ça, ce sont des facteurs de promiscuité qui favorisent même les contacts avec le malade, et la maladie peut se propager de cette manière. Donc, ce sont quelques facteurs que nous pensons qui sont à la base, n'est-ce pas, de l'augmentation des cas dans notre pays. Et les virus, nous devons savoir qu'en RDC, vraiment, le virus circule et circule abondamment. Ça, c'est un fait, vraiment. Voilà.
Docteur Félix Kabanyi-Numbi, ministre honoraire de la Santé, plus de 15 000 cas potentiels et 548 décès depuis le début de cette année 2024. L'OMS a déclaré l'épidémie de variole du singe ou monkeypox comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. On vient de suivre le docteur Songo Lushima, qui est directeur du programme national des luttes contre les monkeypox, justement, et les fièvres hémorragiques virale. Il donne entre autres comme raison de cette aggravation de la situation le manque de vaccins. Est-ce que ça peut être à la base, hein, de l'ampleur que prend cette épidémie?
Je ne pense pas. J'ai suivi le ministre, la presse du ministre ce jour, et personnellement j'étais tout à fait d'accord avec le ministre, parce qu'il met en premier axe principalement l'approche communautaire, la mobilisation communautaire, et je dois dire que toutes ces années, c'est pratiquement par cette approche communautaire que nous avons pu, malgré les moyens difficile, malgré les moyens insuffisants qu'a toujours présenté le gouvernement, mais nous avons pu mobiliser la communauté pour stopper la propagation de toutes les épidémies que nous avons connues. Mais en suivant tout à l'heure le docteur Shungo, je me rends compte que le problème est plus sérieux qu'on le pensait. Je pense que le docteur Shungo parle dans une approche tout à fait verticale en tant que directeur du programme de lutte contre le monkeypox, mais la santé, c'est encore la santé, le système de santé, c'est encore, et que nous pensons qu'à un moment donné, nous avons failli à la surveillance. Il dit que jusqu'en 96, on a pu surveiller, mais de 96 à 2000 ou 2020, nous n'avons pas eu une aussi grande épidémie que ça, alors que nous n'avions pas de vaccin disponible, même si c'est en petite quantité, parce que même aujourd'hui, le vaccin coûte très cher. c'est à peu près $70 la dose. Donc, même si on va pouvoir avoir des donations, des dotations en vaccin, on ne vaccinera pas tout le monde. Donc, je pense qu'il y a un problème de surveillance. Ça, c'est d'abord la première chose. Parce que le monkeypox, à l'instar de Ebola, des autres fièvres hémorragiques comme la fièvre de Marbourg et toutes ces maladies potentiellement dangereuses ou épidémiques, sont à surveillance obligatoire. Et la surveillance et la notification est journalière. Donc, avec les différents systèmes, avec le système de surveillance au niveau de la zone de santé, au niveau du district, au niveau de la province et au niveau national, nous ne pouvons pas être surpris par la déclaration de monkeypox comme une situation de santé, une situation critique de santé publique de portée internationale. Donc, il fallait déjà qu'à un moment donné que la RDC puisse déclarer l'épidémie de monkeypox. Je ne sais pas si cela avait été fait il y a quelque temps, mais je ne pense pas.
Mais je me rappelle qu'il y a le docteur Mbungani, ancien ministre de la Santé, qui avait demander au gouvernement que l'on puisse déclarer cette épidémie. Il a fait cette déclaration au mois de juillet dernier, vu l'ampleur que prenait cette maladie.
Parce que déjà en 2022, nous avons eu une grande épidémie qui a atteint à peu près 70 pays à travers le monde, mais où notre pays avait toujours le lead en termes de nombre de cas. En 2023, on a eu encore beaucoup de cas, et en 2024, pourquoi c'est important de déclarer l'épidémie? C'est ça vraiment le problème. Nous ne devons pas nous cacher et dire, par exemple, on déclare parce que les gens vont dire que nous sommes responsables, nous avons été défaillants. Lorsqu'on déclare l'épidémie, l'avantage, c'est qu'on mobilise la communauté nationale. On mobilise la communauté internationale pour une riposte appropriée. Maintenant, nous sommes dans une épidémie de portée, une situation de santé publique de portée internationale. C'est maintenant que tout le monde se mobilise. Mais je pense que nous devons, comme le deuxième axe du ministre l'a dit, le renforcement du système de santé, nous devons maintenir le renforcement du système de santé et nous devons obligatoirement continuer à notifier, à suivre, à surveiller tous les cas et prendre des mesures, même sans beaucoup d'argent, parce qu'on parle de la mobilisation communautaire, lorsque ça se fait au niveau de la zone de santé, au niveau de l'aire de santé. Nous avons eu à contenir des épidémies de monkeypox limitées à une aire de santé, parce qu'on a notifié, nous avons demandé qu'on suive les cas contacts. Une fois qu'on a suivi les cas contacts avec peu de moyens que l'infirmier titulaire au niveau de l'aire de santé a, avec le peu de moyens que le médecin chef de zone de santé a, ils ont pu suivre les contacts pendant 21 jours, contenir l'épidémie, et nous n'avons pas parlé d'épidémie au niveau de la RDC. Mais avoir plus de 15 000 cas, ça devient interpellateur, et je suis d'accord avec le ministre de la Santé, il faut une vraie mobilisation nationale, une vraie mobilisation de toutes les couches de la population afin qu'on puisse arrêter la transmission.
Alors, la grande question, fallait-il attendre que l'OMS en parle pour qu'on se mobilise au niveau national?
Non, je ne pense pas. Je sais que le gouvernement, ou plutôt au niveau du ministère de la Santé, le travail est en train d'être fait. Ils sont à pied d'œuvre depuis un certain temps. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas déclaré. Peut-être qu'on pouvait même le faire de manière sectorielle, parce que le seuil d'incidence de 11 cas, de plus de 11 cas pour 100 000 habitants a été dépassé largement par certaines zones de santé. Donc au moins on pouvait le faire pour ces zones de santé. Et étant donné qu'on n'a pas pris de mesures, et on ne les prendra pas de toutes les façons, de pouvoir interdire les mouvements des populations et autres, c'est ce qui a expliqué que les gens ont déporté cette maladie. Parce que quand vous êtes en contact avec une personne qui a fait le monkeypox, vous avez 21 jours pour avoir les signes. Donc en 21 jours, on peut faire la moitié du Congo, si on prend, ou tout le Congo si on prend l'avion. Et dès que les signes commencent, notamment la fièvre et les éruptions, on devient contagieux et ça continue à ce moment-là.
Docteur de Joseph Kakisingi, vous intervenez depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, quasiment toutes les provinces de la RDC sont touchées par ce virus. Mais selon le ministre de la Santé, les provinces les plus affectées sont notamment l'Équateur, le Sud Kivu, la province de la Tchopo. Vous êtes au Sud Kivu. Comment la prise en charge se fait?
Je pense que le problème de la prise en charge vient de ce que disait l'ancien ministre, qui a pu gérer, je pense, une grande épidémie d'Ebola. En fait, la question remonte sur la surveillance des cas et le suivi des contacts. Ce qui s'est passé, je pensais qu'il se passe maintenant. On sait d'abord qu'au sud de Kivu, l'épicentre semble être la cité de minière de Kamituga, et où on a pu tracer l'origine, qui est une personne qui est venue, je pense, de la province orientale, et il est arrivé. Et on a vu qu'autour de lui, il y a eu la contamination. Et pour la première fois, c'était particulier, on a pu identifier que la contamination était sexuelle. On savait que dans tout ce qu'on savait avant, c'est que la plus grande partie des contaminations était par consommation de viande de la forêt et tout ça. Mais maintenant, on a pu montrer qu'il y a une contamination sexuelle. Kamituga étant une cité minière, donc il y a aussi une activité sexuelle très très importante. Et aussi, il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour chercher les minéraux et ils repartent. Donc, c'est un centre où les gens arrivent et ils partent vers d'autres centres où ils vont contaminer. Alors, la prise en charge, jusque-là, n'est pas vraiment systématisée parce que on ne sent pas la grande mobilisation comme on l'a eu pour la COVID, par exemple, ou ce qu'on a eu pour l'Ebola. Et on a l'impression que le gouvernement, probablement, on le sait, il a un schéma, il y a un plan, il y a tout ce qu'il faut faire. Mais les moyens ne suivent pas. Et on reste à attendre quand est-ce que les moyens vont être là, quand est-ce qu'il faut... On sait qu'on fait, on doit faire ceci, mais on n'a pas de moyens. Et c'est ce qui fait que l'épidémie se propage. Aujourd'hui, on est à la semaine 30. Cette année, on compte plus de 3400 cas pour le sud Kivu. Et la majorité est dans la cité de Kamituga avec, je crois, plus de 750 cas et 22 décès. C'est énorme. Alors, la prise en charge, pour moi, traîne à se systématiser, traîne à se mettre à jour. On sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas de moyens. Et entre-temps, maintenant, la société civile essaie de mobiliser en parallèle des partenaires avec les ONG internationales pour voir ce qui peut être mis en place. Et on essaie de mettre en place justement cette mobilisation communautaire à travers des médias, à travers des dépliants, à travers l'éducation, et pour voir comment on peut couper la chaîne. Mais là encore, je pense qu'on n'utilise pas assez de moyens qu'on a. Actuellement, avec les systèmes de communication qu'il y a, les nouvelles technologies, on peut faire mieux. Et à mon avis, on peut encore faire davantage si on utilise tout ce qu'il y a. Nous prenons l'exemple de ce que nous avons fait, par exemple, avec la COVID. Nous avons pu mettre en place on a pu installer donc des possibilités de connexion pour des jeunes, pour des universités, et où on a diffusé des messages, et où on a identifié des personnes qu'on peut appeler des influenceurs, et qui partageaient dans leur groupe de réseaux sociaux. Cela manque encore, et c'est là la perspective qu'envisage la société civile, en restant dans la sensibilisation et la mobilisation communautaire, à montrer quels sont les signes qu'il faut éviter, comment il faut se comporter, comment on peut rompre cette chaîne-là. Donc je peux dire que pour l'instant, il n'y a pas assez de mobilisation, il n'y a pas non plus une systématisation. On sait qu'on parle aujourd'hui de 3400 cas, mais il y en a plus. Il y a des cas qui échappent aux statistiques. Il y a des cas contacts qui ne sont pas suivis. Et donc, ça fait que la maladie sûrement se propage. Kamituga étant très fréquenté, c'est sûr que les cas arrivent à Bukavu, et presque toutes les zones de santé sont maintenant concernées. Et la proximité entre le site Kivu et le Rwanda, le Burundi, et c'est sûr que le virus a été circulé dans toute la région des Grands Lacs, et à un moment donné, ça va pratiquement dépasser les contrôles, et voilà ce que je peux dire pour l'instant.
Alors, docteur, selon certains témoignages venus de Bukavu, il paraît que dans certaines communautés, au niveau de certaines personnes à Bukavu, la perception de la maladie comme étant des pratiques mystiques n'aide pas à l'adhésion aux mesures de santé publique. N'aide pas beaucoup, hein. Allez-y.
Je peux dire, au début, on a eu cette perception-là, on pensait à la sorcellerie, on pensait à des pratiques mystiques, mais maintenant, tout le monde est conscient qu'en fait, c'est une épidémie et tout le monde est assez informé. L'information est diffusée à travers les réseaux sociaux, les médias, donc les gens sont suffisamment informés. Pour moi, je pense que ce n'est pas ça tellement qui n'aide pas, mais ce qui n'aide pas, c'est qu'on n'a pas un système bien précis. Je donne un cas. Il y a des cas suspects qui arrivent dans des structures de santé, mais en fait, les structures de santé ne savent pas où référer les cas, parce qu'on a parlé des centres d'accueil, mais en fait, quand vous avez dans les centres d'accueil, il n'y a pas de structure pour accueillir. on a émis des vœux, mais on n'a pas mis les systèmes en place. C'est ce que je peux dire. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les malades divaguent, les cas suspects sont là, on ne sait pas où les référer, on n'a pas une chaîne de référencement. Et parfois, des structures nous appellent pour dire, voilà, nous avons des cas suspects, nous avons appelé, mais tout ce qu'on a pu faire, c'est que la zone de santé, qui aussi est tout à fait limitée, arrive, ils prélèvent, et c'est tout. Maintenant, ces cas suspects-là, on aurait dû les mettre dans des zones isolées, dans des sites d'isolement, on aurait pu avoir un système de suivi des cas contacts, mais tout cela n'est pas encore mis en place, ce qui fait que finalement, même les médecins ou les structures qui ont des cas, ils ne savent pas comment faire, et chacun essaie de gérer à sa façon, essaie d'isoler le cas et le traiter, et ça n'aide pas à éradiquer. Il y a encore vraiment un grand travail à faire, comme l'a dit le ministre honoraire, il y a encore tout un système à essayer de remettre en place pour en fait barrer cette chaîne de transmission.
On va ouvrir notre standard pour donner aussi la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent de partout en RDC et même en dehors de nos frontières. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ça sera pour vous, docteur Shongo Lushima.
Concernant ce que le directeur de l'OMS vient de nous annoncer, je venais de lui dire que c'est mieux de l'annoncer. Quelles sont les mesures de prévention? Car bientôt c'est la rentrée scolaire. Et qu'est-ce que aussi le gouvernement est en train de préparer que cette maladie ne puisse pas se propager? Que cette maladie ne puisse pas se propager et qu'on vient de nous informer que c'est une maladie transmissible. Qu'est-ce qu'on peut faire pourvu que chaque centre puisse prendre des mesures de prévention partout où il sera, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, partout où nous allons nous rendre, de sorte que cette maladie ne puisse pas nous atteindre. C'est ce que j'aimerais que le gouvernement, en tout cas, puisse mettre les points sur les i, question que cette maladie qui est annoncée, plus dans notre continent ainsi que dans notre pays, plus des provinces que nous venons d'apprendre, qui est infectée. Alors, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement puisse prendre en tout cas les mesures, en fait, qu'on ne puisse pas vivre les scandales qu'on a connus lors de la COVID-19.
Docteur Shongo Lushima.
Oui, merci pour la parole. J'en profite pour saluer Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique honoraire, qui est là avec nous. Bon, je pense que ce qui se fait, c'est qu'il y a cet aspect-là de la sensibilisation pour la communauté. C'est que il faut, quand un membre de la famille ou dans la communauté, vous voyez un cas qui vient de faire la fièvre, 2-3 jours après, si ça apparaît des éruptions qui commencent généralement par la face et les extrémités, tout ça, la première des choses, c'est de l'amener dans un centre de santé, un centre vraiment qui est le plus proche, ou un centre hospitalier qui est le plus proche. C'est d'abord ça. Pour éviter, quelle est l'action, la première action qu'on voudrait, c'est pour l'isoler, c'est-à-dire éviter qu'il soit en contact avec beaucoup de gens, pour l'éloigner, les séparer un peu des autres, pour éviter ses contacts directs avec les cas ou avec ses sécrétions. C'est vraiment la première des choses qu'on doit faire.
Alors son souhait, c'est vraiment de maîtriser le souhait de cet auditeur, c'est vraiment de maîtriser cette maladie, surtout avant la rentrée scolaire, les cours qui reprennent bientôt, dans quelques semaines. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place comme mesure de sécurité pour éviter des contaminations au sein des écoles, par exemple?
Oui, c'est ça ce que je venais de dire. Tout cas suspect comme ça, avec éruption, d'informer un centre de santé ou de l'amener dans un centre de santé qui est le centre le plus proche. C'est d'abord ça, la première des choses. Et continuer continuellement avec la sensibilisation. Il y a nos méthodes traditionnelles de personnel de santé, des investigations. Et c'est là où même le docteur Freddy de Bukavu est en train de vous dire que souvent les moyens ne suivent pas. Les investigations sont des choses qui peuvent durer toute une journée, chaque jour, ça demande vraiment les moyens, souvent ne suivent pas. Et parfois on est en panne comme ça. On peut commencer un jour, deuxième jour, il faut faire 3 semaines, 4, 1 mois, 2 mois, les gens sont essoufflés. Hein? Souvent les moyens ne s'accompagnent pas. Voire même les médicaments ordinaires que nous avons déjà élaborés pour le traitement simple, le traitement compliqué. Nous avons même, toutes les stratégies sont là. On peut soigner des cas même à domicile. Hein? Tout ça. Mais souvent, les moyens vraiment ne suivent pas, comme me disait docteur Freddy.
Surtout quand vous voyez les investigateurs.
Je vous suis.
J'ai dit docteur Joseph plutôt, pas Freddy de Bukavu.
Oui, docteur Joseph, oui, parce qu'il y a l'autre Freddy que je connais qui est à Bukavu aussi, là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Le moyen vraiment ne suivent pas par rapport aux activités que nous mettons en place pour arriver à interrompre par ces méthodes traditionnelles là, la chaîne de transmission. C'est souvent ça qui...
Merci. Donc, on retient que les grands problèmes, ce sont les moyens qui manquent. On va prendre ces deuxièmes auditeurs avant de vous donner la parole, docteur Félix Kabangé. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle de Kananga. Kananga. L'auditeur de Kananga n'est pas disponible. On va prendre l'auditeur de Bukavu.
Robert Baume, je vous appelle à partir de la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Depuis l'annonce officielle de cette épidémie en RDC, sa prise en charge semble laisser à désirer. C'est pourquoi il ne serait pas étonnant de voir les cas de monkeypox se multiplier les jours à venir par rapport aux cas observés aujourd'hui dans ce pays. Toutefois, il y a lieu d'en stopper la propagation en communiquant bien à la population le comportement à adopter face à cette épidémie et en prenant en charge cette dernière de manière correcte et sérieuse. À cet égard, un budget spécial et des circonstances de l'État congolais s'imposent.
Docteur Félix, il y a un autre auditeur qui pose la question de savoir quels sont les signes que présente celui ou celle qui est affectée par cette maladie et quels sont les moyens de prévention.
Merci beaucoup, madame. Avant que je ne parle des signes et des moyens de prévention, laissez-moi dire un mot sur la question de notre auditeur de Lubumbashi sur la rentrée scolaire. Vous savez, on ne va pas réinventer la roue. Moi, je me projette 10 ans plus tôt. Nous étions en août 2014, quand nous avons eu la grande épidémie de Djera dans la province de la Chuapa, au moment où toute l'Afrique de l'Ouest était dans une épidémie sans pareil d'Ebola, et nous étions dans la même situation d'urgence de santé publique de portée internationale. Nous nous sommes posé la même question, parce que l'épidémie, nous l'avons eue début août, et il fallait la rentrée scolaire au mois de septembre. En fait, plus de 50% de personnes de cadres qui travaillaient avec nous ne voulaient pas qu'on aille à la rentrée scolaire, parce qu'on allait propager l'épidémie d'Ebola auprès des enfants, et la situation devait s'aggraver. Nous avons eu le concours d'abord de notre service de communication du ministère de la Santé, qui a été appuyé par l'UNICEF. Nous avons fait rapidement, en une semaine, une étude. On a mis des anthropologues et toutes ces personnes qui ont pu nous faire un rapport. Et le CNC avait décidé de dire au ministre de la Santé, au ministre de l'Éducation nationale, de ne pas reporter la rentrée. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ce qu'on nous a dit, c'était quoi? Les enfants comprennent mieux que les adultes. Donc, la première semaine ou les 3 premiers jours de la rentrée scolaire étaient dédiés à la sensibilisation des enfants sur les mesures préventives contre Ebola. Ces enfants, chaque enfant rentrait à la maison et demandait d'abord à ses enfants de mettre un seau où il faut mettre l'eau et le savon à côté, ou parce que là c'était principalement le lavage des mains. Et on a constaté dans la suite que les gens ont été mieux sensibilisés après la rentrée scolaire grâce aux enfants qui sont rentrés sur le banc de l'école. Donc je ne pense pas qu'on puisse arrêter la rentrée scolaire. Il faut plutôt avoir des messages conséquents pour donner aux enfants à la rentrée scolaire afin que le message du ministère de la Santé soit porté dans toute la communauté par ses enfants. Je note aussi par rapport à la prise en charge la question de M. Robert Bahomé et même les propos tenus par le Dr Chongo qu'il manque de moyens. Le gouvernement ne doit pas se baser seulement sur les partenaires. Je pense qu'avec le temps, pendant l'émission, nous allons revenir sur le problème de la coordination et le problème de la cartographie des partenaires. Il y a beaucoup d'argent dépensé dans le Manque et Poste aujourd'hui, mais vous allez vous rendre compte que c'est concentré à des endroits qui ne sont pas les priorités du gouvernement. Je pense qu'on y reviendra. Alors, en ce qui concerne les signes, d'abord, le premier signe, parmi les premiers signes que nous avons les douleurs. Il y a des douleurs au dos, des douleurs au niveau des articulations, des douleurs au niveau des muscles. Nous avons la fièvre et avec après 3-4 jours, il y a maintenant la phase d'éruption. Ce sont des éruptions cutanées, des surélèvements qui sont assez fermes et qui commencent particulièrement, où ça peut changer, mais c'est principalement au niveau de la face, au niveau des membres, au niveau, et justement c'est ça la différence avec la varicelle et les autres éruptions. Les éruptions du monkeypox, vous les avez dans les paumes de main, vous avez dans les plantes des pieds, vous les avez au niveau des organes génitaux, au niveau de l'aine et des organes génitaux, et même dans la région anale. Et c'est à ce moment-là que on pose le diagnostic. Bien sûr, le diagnostic se fera par la PCR après le prélèvement qui sera envoyé au laboratoire. Quels sont les moyens de prévention? Je pense que les moyens de prévention partent des comment on se contamine. D'abord, au départ, c'est le contact, parce que le docteur, je pense, il a dit, hein, docteur Chongo, il s'agit d'une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui va de l'animal vers l'humain. C'est vrai qu'on l'a appelé variole de singe parce que tout le monde pense que ça vient du singe. D'ailleurs, le singe faisait parmi les animaux qui font très peu de variole de monkeypox. Mais on pense qu'il y a d'autres réservoirs. Des autres réservoirs, on pense notamment à des petits rongeurs. Chez nous, c'est beaucoup plus les écureuils rayés, qui sont les écureuils rayés d'Afrique. Mais on parle de rats de Gambie, de souris rayées, des loirs et d'autres petits rongeurs. Donc, première chose, il faut éviter le contact avec les animaux. Quand vous trouvez un animal mort dans la forêt, il ne faut pas le toucher. Parce qu'il y a certains rituels où on va ramasser des animaux morts. C'est toutes ces pratiques par lesquelles il faut commencer. Donc il faut éviter le contact avec les animaux. Il faut contact que lorsque le chasseur a tué un animal, il doit se laver les mains et on doit préparer correctement cette viande. Parce que lorsqu'on mange la viande crue ou la viande mal préparée, là c'est un problème. Deuxièmement, et ce que nous avons aujourd'hui, parce que quand vous avez des varioles de monkeypox, le monkeypox dû à la transmission de l'animal vers l'homme, généralement c'est localisé. Mais on a des cas d'épidémie lorsqu'il y a une transmission interhumaine. Et depuis un certain temps, Dr Chongo le confirmera surtout.
Même Dr Joseph de Bukavu qui vient de parler de ça.
Oui. Nous sommes en RDC dans la contamination interhumaine. Quelles sont les voies de communication, les voies de contamination? Face-face. Donc, lorsque vous parlez, il y a des gouttelettes de fluide. Lorsque vous éternuez, il y a des gouttelettes qui peuvent, mais là, il faut un contact assez long. Face, bouche-bouche. Donc, il faut éviter le contact bouche-bouche, notamment par les embrassades. Il y a les contacts peau-peau, c'est-à-dire la peau et la peau, à travers, notamment, ces sécrétions que vous pouvez avoir. Il y a les contacts peau. Nous pouvons aller même jusqu'au contact sexuel. Et d'ailleurs, justement, le cas de Kamituga, ça arrive très rarement parce que dans l'épidémie de 2022, on a identifié quelques cas de transmission sexuelle. On n'avait pas confirmé vraiment la transmission sexuelle, mais c'est avec le temps qu'on a pu identifier que la transmission sexuelle était aussi une des voies de contamination. Mais c'est rare qu'on ait un cas index comme à Kamituga, où le premier cas était un cas de transmission sexuelle. Il y a le cas de transmission peau-bouche. notamment dans les cas de quand vous embrassez la main de quelqu'un, mais également dans certains contacts sexuels anormaux. Donc, vous pouvez avoir des cas, et les autres cas qu'on peut avoir, justement, c'est dans le cas de toutes les transmissions aériennes, par la respiration et autres. C'est pourquoi vous avez entendu Dr Chongo parler de la promiscuité. Donc, il faudrait vraiment que l'État congolais ait une attention particulière sur les lieux où il y a promiscuité. Je parle ici des prisons. Je parle également de tous ces hommes de vieillards, des hôpitaux surpeuplés. Donc, tous ces endroits où vous avez une concentration excessive de personnes, vraiment, s'il y a une personne qui a ces éruptions cutanées, la transmission est plus rapide. Voilà pourquoi on demande à ce qu'on puisse isoler ces personnes lorsqu'elles commencent à être contagieuses.
Docteur De Joseph Kakisingi, qu'est-ce qu'il faut pour stopper la propagation de cette maladie en RDC?
Comme le docteur vient de le dire, il faut d'abord songer à une bonne identification des cas de contact et puis surtout isoler les cas suspects. Ça doit être la première chose. Et ça va dépendre vraiment de bien systématiser les systèmes de santé pour pouvoir identifier les cas potentiellement contagieux, donc les cas potentiellement contaminés, les cas des cas contacts notamment, les maladies, les cas malades, les mettre dans des hôpitaux, ils sont bien soignés, ils sont bien suivis, et aussi, surtout, diffuser des messages d'éducation. Comme le docteur l'a dit, on a cité un certain nombre de types de contaminations, et le type aussi qu'il n'a pas cité, c'est les contaminations à travers les sécrétions, la salive, et tout ce qui a comme sécrétions génitales et tout ça. Donc, il faut éviter absolument de se serrer la main, d'avoir des contacts proche à proche. C'est dans nos habitudes, c'est vrai, de se saluer par la main, de se toucher, mais il faut arriver à savoir qu'on doit changer de mode de vie. Déjà, l'Ebola nous l'a appris, et la Covid est venue nous le confirmer, et maintenant, avec le monkeypox, je pense qu'on doit changer de mode de vie. On doit communiquer davantage, on doit sensibiliser, et surtout, on doit arriver à transformer la communauté en porteur de messages. Il ne faut pas qu'il soit seulement ceux qui reçoivent les messages, mais il faut que tout le monde soit celui qui porte les messages pour l'autre. Parce que la tendance que nous avons actuellement, c'est de dire, nous sommes des professionnels de santé, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui devons parler et les autres nous écoutent. Mais maintenant, on doit aller au-delà de ces concepts-là. On doit faire en sorte que ça soit la communauté elle-même, les populations, les jeunes, tout le monde de la communauté soit porteur du message et soit sensibilisateur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Deuxièmement, il faut renforcer les contrôles au niveau des frontières. Par exemple, j'ai traversé à Bukavu, il y a une frontière avec le Rwanda et tout ça. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas encore une bonne disposition, des dispositifs pour faire en sorte que vraiment les cas soient bien dépistés, les cas suspects soient isolés. Donc, tous ces systèmes-là, comme ceux qu'on a vus avec Covid, devraient être vraiment réactivés et ça pourrait nous permettre de casser cette transmission-là et cette propagation. Et deuxième chose, il faut aussi, je pense, renforcer les capacités du personnel soignant. Je ne suis pas très sûr que tout le monde sait comment se comporter quand il y a un cas suspect de monkeypox dans les structures sanitaires au sud Kivu et dans les hôpitaux. Ça semble quelque chose de lointain où on apprend, on a suivi à la radio, mais on ne semble pas encore intérioriser. Et c'est là qu'on doit aller. On doit aller amener les gens à intérioriser qu'il y a un problème réel, qu'il y a une épidémie, ça se contamine, ça se propage très rapidement. C'est pas encore très maîtrisé toutes les voies et il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut être engagé, il faut faire partie de ceux qui luttent et non de ceux qui attendent voir comment ça va se passer. Et je pense que c'est ça la grande chose et aussi le gouvernement doit vraiment jouer son rôle comme l'ancien ministre l'a dit. Il ne faut pas toujours penser aux donations, il ne faut pas toujours penser aux partenaires. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit comme pourcentage dans son budget pour parer à des cas d'épidémie, parce qu'il y en a toujours. Aujourd'hui, on parle des monkeypox. On a parlé de la Covid il n'y a pas longtemps. Sûrement que d'autres vont venir. Mais est-ce que le gouvernement doit rester attentiste ou doit? C'est le cas maintenant de réfléchir sur comment mettre, prépositionner un fonds facilement mobilisable pour répondre à ce genre de situation. Je pense que c'est vers là qu'on doit réfléchir. Et c'est vers là qu'on doit voir. On ne doit pas attendre que dire qu'il faut d'abord que tout le pays soit embrasé. Mais c'est maintenant. Déjà, c'est tard d'ailleurs. C'est déjà tard. Parce que
comme la situation est assez critique, est-ce une mauvaise chose d'avoir la contribution ou de compter sur la contribution des partenaires?
Non, c'est absolument comme c'est une situation critique, on doit avoir la contribution de tous les partenaires. Mais on ne doit pas attendre que ce soit les partenaires qui commencent. C'est le gouvernement qui doit donner le tempo et ensuite les partenaires suivent. Mais il ne faut pas que le gouvernement attende que les partenaires fassent et lui va venir après. Et c'est là que je voudrais exprimer. Maintenant, je crois que il est temps qu'on voit autrement la façon de gérer les épidémies. Je pense que le ministre honoraire pourra appuyer cela. Il est temps qu'on passe, qu'on voit autrement comment gérer les épidémies. Pas attendre, mais prévenir, être proactif. Nous avons des bons plans dans ce pays. Il faut voir comment les activer à temps, comment les financer et comment faire en sorte qu'ils soient fonctionnels. Sinon, on sera toujours pris de court, et comme c'est le cas maintenant et comme ça a été le cas avec Ebola.
Merci, docteur Joseph Kakisindji. Docteur Chongo Lushima, nous sommes à la fin de notre émission. Un message de sensibilisation à toute cette population qui nous suit en ce moment partout en RDC. C'est presque toutes les provinces qui sont affectées aujourd'hui par cette maladie. Quel message vous pouvez lancer?
Merci beaucoup. Le message que nous devons lancer, ce de ne pas vraiment paniquer devant cette situation que nous avons dans le pays. Tout cas qui a la fièvre avec des éruptions, qu'on l'amène à l'hôpital ou à un centre de santé qui est le plus proche. Hein. Nous devons matraquer sur la sensibilisation communautaire et tout ça. Et moi, je peux vous donner mon exemple. Par exemple, à un moment donné, pendant 3 ans, j'ai travaillé au Sankoum avec son Excellence Monsieur le Ministre d'Antan qui m'avait envoyé au Sankoum. J'ai travaillé 3 ans et demi. Je gestionnais partout, je sensibilisais partout. Mais voyez maintenant, malgré tout ce qu'on avait fait là, les cas sont là. Et maintenant, c'est de plus en plus. Il y a plus de cas encore. Quelques années plus tard, maintenant, il y a beaucoup de cas. C'est ainsi, moi, j'insistais. Moi, mon combat, c'est d'introduire déjà la vaccination. Parce qu'il y a des moyens traditionnels qui ont des limites, surtout pour cette maladie où le virus circule partout, on ne connaît pas encore le réservoir. Il y a lieu de commencer, d'accélérer. Comme les deux vaccins ont été acceptés par notre gouvernement, nous devons accélérer le processus d'obtention pour commencer. Pour commencer à recevoir ce vaccin. Moi-même, je l'ai reçu depuis 2017. Nous avions vacciné les infirmiers du côté de la Chouapa. Les choses s'améliorent de ce côté-là. Moi, pour moi, le message, c'est d'accélérer, n'est-ce pas, l'optation, l'arrivée de ce vaccin pour que nous puissions vraiment commencer avec la vaccination. Avec l'ampleur que les choses prennent maintenant, nous devons commencer. D'ailleurs, si c'était ailleurs, dans d'autres pays, en Europe, ils allaient déjà commencer la vaccination depuis. Donc, c'est ça mon souhait pour le moment. Voilà, merci.
Merci, docteur Songo. On va lire quelques réactions des internautes qui sont très nombreux à nous suivre en direct sur la page Facebook de Radio Kapi. Merci à Clovis Mouniombe qui nous suit. Voilà, il n'a pas dit où il nous suivait. Sadiki Kambale depuis Bounia, Limassi, Kingombe, Ongombe depuis le Maniema, Ornicar Banza. Le plus grand problème chez nous, c'est qu'au lieu de faire une sensibilisation générale, et si possible, avec la vaccination généralisée, les gestionnaires s'occupent uniquement des régions actuellement infectées, en oubliant que dans mon pays, l'exode est régulier dans tous les sens, avec possibilité d'une propagation rapide et nuisible. Il nous écrit depuis Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Clovis Mouniombe estime que le gouvernement doit mettre beaucoup de moyens pour lutter contre cette épidémie qui est encore au début, selon lui. David Wedi, depuis Kinshasa, la variole ne date pas d'aujourd'hui, mais à suivre le docteur Chongo dire que jusqu'à présent, on n'a pas un vaccin contre cette épidémie, semblerait une négligence totale de cette maladie. Or, elle est mortelle. La maladie qu'on néglige ne se guérit pas, mais elle tue. Alors, docteur Félix Kabangé, votre conclusion.
Merci beaucoup. Moi, je vais aller sur trois points pour améliorer et pouvoir mettre fin à cette épidémie en cours. La première chose, c'est la coordination. Nous avons eu des réformes dans ce pays, mais j'ai peur que ces réformes n'aient été faites à la tête des individus au lieu qu'ils soient dans le sens du renforcement du système de santé. Ce que je remarque sur terrain, c'est que nous avons trois pôles. Nous avons le ministre qui devait avoir le monopole et la totalité de la riposte, qui malheureusement est cloisonné à un niveau. À un autre niveau, vous avez l'Institut National de Santé Publique, qui ne travaille pas totalement avec l'administration, c'est-à-dire avec le secrétaire général. Il est important que toutes les trois se mettent ensemble pour qu'on sente la coordination de la lutte contre le monkeypox. Deuxièmement...
Bonne coordination, donc.
Une très bonne coordination, effectivement. Deuxièmement, c'est la cartographie des partenaires et leur alignement sur les priorités nationales. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires. Chacun intervient dans cette épidémie de sa façon. Vous avez 3-4 partenaires qui sont dans une même zone de santé et qui se superposent les interventions alors que l'État a besoin de leurs interventions. Il faut les cartographier et leur demander de dire ce qu'ils ont, qu'ils s'alignent aux priorités nationales afin qu'on couvre toutes les zones qui sont prioritaires. Troisièmement, il faut capitaliser les acquis. Nous avons eu Ebola, nous avons eu Covid. Donc nous avons des structures en province qu'il faut juste capitaliser afin que l'approche communautaire soit au summum de son activité. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à pouvoir mobiliser, à pouvoir débloquer les fonds pour soutenir les structures à la base et non pas au niveau national. C'est à la base qu'il faut soutenir toutes ces structures pour que la sensibilisation soit faite correctement, pour qu'on puisse former le personnel de santé. On l'a dit dans les réactions ici que certains personnels de santé n'ont pas toute la formation requise sur le monkeypox, mais il faut aussi motiver ce personnel de santé qui est dans des structures particulières qui reçoivent justement les malades. Il faut améliorer la prise en charge, mettre à la disposition des zones de santé des tentes, donner de l'alimentation, parce que quand on isole les personnes et que ces personnes ne mangent pas, la conclusion c'est quoi? Ces personnes fuient et rentrent dans la communauté où elles continuent. Tout ça, ce n'est pas la communauté internationale, ce ne sont pas les partenaires qui doivent le faire, c'est d'abord le gouvernement. C'est avec peu de moyens qu'on peut lancer tout cela. Et bien sûr, à la fin, il faut vacciner. Il faut vacciner, il faut que le gouvernement se dote rapidement du vaccin MBA-BN et pour les adultes et LC16 pour les enfants, afin qu'on puisse vacciner. Mais on ne vaccinera pas tout le monde. Voilà pourquoi j'invite à ce qu'on puisse
vacciner. On va vacciner qui ?
On doit, en fait, il faut qu'on mette sur pied un critérium. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un taux d'incidence supérieur à 11 cas déclarés pour 100 000 habitants, par exemple. Toutes les zones de santé qui sont dans cette situation, on doit vacciner. Donc, on les prioritise. Même à travers ces zones de santé, on dit qu'on doit vacciner les enfants jusqu'à 17 ans. Ce qui n'est pas très sûr, parce que nous ne savons pas combien de doses nous aurons. À ce moment-là, on peut aller soit en dessous de 12 ans, soit on prioritise les enfants de 0 à 5 ans, parce qu'ils sont très vulnérables. Les femmes enceintes sont très vulnérables. Et bien sûr, il y a le personnel du sexe, notamment tous ces LGBT, toutes ces personnes, parce qu'on a eu à identifier des cas, justement, chez des hommes qui ont des rapports avec les hommes, ainsi de suite. Donc, ces personnes sont prioritaires et pour les autres, on suit les contacts. Dès que la personne est atteinte, pendant la période de vaccination, dès qu'on a les contacts, on les vaccine. Parce qu'à ce moment-là, nous allons vacciner en pré-exposition pour une catégorie et en post-exposition pour les personnes qui sont censées être suspectes parce que étant personnes contactées.
Merci, docteur Félix Kabanyenoumbi. Docteur de Joseph Kakisingi, votre mot de la fin.
Ce que je peux dire à la fin, c'est que nous devons tous prendre conscience que nous sommes dans une phase d'épidémie et que donc chacun doit essayer de mettre à disposition tout ce qu'il peut avoir comme moyen de communication pour sensibiliser autour de lui et pour sensibiliser tous les autres. Bon, mais moi, je pense qu'il y a trois points. Donc, mon message, c'est trois points. Le gouvernement doit essayer de jouer son rôle de lead dans la gestion de l'épidémie et vraiment coordonner et organiser tout ce qui se passe. Et le deuxième point, c'est que les organisateurs civils, que ce soit les ONG nationales et les ONG internationales, doivent aussi se coordonner et essayer de donner le maximum de ce qu'ils peuvent en mettant un accent particulier sur la communication. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies pour atteindre un plus grand nombre et à moindre coût. Et donc, en créant tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a fait avec Ebola, comme on disait, il faut capitaliser, ou avec Covid, on a eu des groupes d'influenceurs qui peuvent envoyer des messages jusqu'à 500 000 personnes et faire atteindre des messages à beaucoup de gens. Ça peut aider. à donner de l'éducation, comment c'est comment éviter la propagation, comment se protéger. Et finalement aussi à la population de suivre tout ce qu'on donne comme conseil et d'être aussi des propagateurs de ces messages auprès de leurs proches. Si tout le monde prend conscience qu'ensemble, chacun a un rôle à jouer, on pourra arriver à mettre fin à cette épidémie de monkeypox.
Merci docteur de Joseph Kakisini, merci également à Mao Kapessa qui nous suit depuis Moba, à Tshishougi Ismaël, depuis Bukavu, à Kaikai Kabasele, depuis Kananga, jusqu'à Nicodème Tshiswaka, depuis Kasumbalesa. Vous êtes très très nombreux à avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Hervé Boka, Donna Madimba, Polidor Basunga, Debs Vita, mais également à notre caméraman Jonathan Fonani, à qui nous souhaitons bon anniversaire de mariage aujourd'hui. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.